18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est votre magazine Les Informés de 18h, 19h30. On va parler, eh bien, de beaucoup de choses aujourd'hui, chers amis auditeurs. Ceux qui nous écoutent, partout en France. Eh bien, tout d'abord, au sommaire, au menu, on va revenir sur la pénurie de carburant. Parce que ça chauffe. Parce qu'il y a des accrochages, parce qu'il y a des insultes, il y a des incidents. Les automobilistes, évidemment, qui s'embrouillent. Et puis, les grèves qui reconduisent. Et puis, voilà, les politiques s'en mêlent. Et puis, cette pénurie. Les syndicats qui annoncent que ça va durer. Eh bien, on va en continuer d'en parler sur notre antenne 01 53 48 3000. Ensuite, après, nous parlerons du face-à-face. Ça, c'est vous, au 01 53 48 3000. J'accueillerai tout à l'heure mon invité Mehdi Bellabbas. Justement, on viendra sur le 17 octobre, événement majeur. On viendra avec lui pour en parler, justement, parce que c'est important. C'est lundi prochain, mais nous, on a décidé d'en parler d'abord sur notre antenne aujourd'hui, y compris la semaine prochaine sur ce fameux massacre. Une lettre ouverte à Emmanuel Macron, vous saurez tout à l'heure. Le 18h30, avec le Quad 9, ça... C'est le docteur Majid Soussine qui reviendra sur son billet d'humeur. Il reviendra sur l'actualité de la pénurie. Et puis, le face-à-face avec nos débatteurs influenceurs qui viendront confronter leur point de vue. Eh bien, figurez-vous qu'on a retenu 4 sujets. On viendra sur la marche qui se prépare pour dimanche prochain, celle de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Un clip qu'on va vous faire découvrir où Bardot, Adjani, Marceau, bref, Canon César, l'improbable clip de Kiev pour remercier la France pour le matériel militaire. Y compris les Ukrainiens l'ont diffusé. Vous savez que ça fait beaucoup marrer. On reviendra sur ce clip. On reviendra aussi également sur cette pénurie. La pénurie, la guerre, la galère, les scènes de chaos. Tout cela, c'est dans Les Informés de 18h30 jusqu'à 19h. Eh bien, Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Mehdi Bellabbas, que vous connaissez, parce qu'il a été pendant longtemps chez nous, un grand débatteur. Vous représentez l'Association pour la mémoire contre l'oubli. Mon cher Mehdi Bellabbas, quel plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Bonsoir Adil, je suis très heureux de vous retrouver... sur Beurre FM.
Vous savez que vous nous manquez en tant que débatteur, là ?
Ah, c'est gentil, merci Adil.
Bah oui, quand est-ce que vous revenez ? Je sais que vous êtes loin de Paris, mais bon, de temps en temps, il faut venir nous voir.
Je vais essayer, promis.
Bon, vous êtes là, vous représentez, non pas parce qu'on vous a connu pendant longtemps en tant qu'acteur politique de l'Europe Écologie Les Verts, là, vous allez représenter l'Association pour la mémoire contre l'oubli, et vous êtes là pour parler... du fameux massacre du 17 octobre 1961. Et alors, vous avez décidé d'écrire une tribune pour interpeller le chef de l'État. Pour quelle raison, mon cher Mehdi Bellabbas ?
L'idée, c'est quand même de mobiliser sur ces événements qui sont quand même aujourd'hui dans l'attente d'une vraie reconnaissance, une reconnaissance de l'État, de son implication dans le meurtre de centaines et de centaines d'Algériens le 17 octobre 1961. Ce travail-là, il s'inscrit dans la continuité d'une précédente initiative qu'on avait menée en 2000, oui. Où on avait déjà interpellé le président de la République pour obtenir l'ouverture complète des archives sur la guerre d'Algérie et sur la colonisation, notamment sur les événements du 17 octobre 1961. Et donc, ce travail, il porte ses fruits parce que lors de son voyage en Algérie, au mois d'août dernier, le président Macron a annoncé que les archives seraient ouvertes, etc., etc. Mais pour autant, on attend encore une reconnaissance formelle des massacres du 17 octobre 1961.
Vous êtes deux auteurs, Mehdi Bellabbas, vous-même et Halima Mennounhoudj, une lettre ouverte clairement adressée donc au président de la République. Vous dites quoi dans cette tribune ? Et notamment, j'ai vu qu'elle a été signée d'ores et déjà par énormément de personnalités issues de tous bords.
Oui, tout à fait. Cette démarche de lettre ouverte, elle demande cette année à ce que le 17 octobre soit inscrit au calendrier des cérémonies officielles de la République française. Pourquoi on a fait cette démarche-là ? Pour faire en sorte que dans chaque ville, chaque village de France, les citoyens qui se sentent soit proches de l'Algérie, soit proches des Algériens, soit proches de l'immigration, puissent commémorer librement ces tragiques événements pour faire honneur à nos morts. Alors, faut savoir, moi, aujourd'hui, Adil, vous le savez, j'habite à Perpignan. Perpignan, une ville dirigée par le Front National de Louis Alliot, et qui glorifie la colonisation, les anciens de l'OAS, les terroristes de l'OAS. Et donc, ici, commémorer le 17 octobre, c'est pas la même chose que sur le pont Saint-Michel à Paris, où on a un collectif d'associations très fort qui agit depuis des années et qui est reconnu. Voilà, donc on est dans des contextes qui sont difficiles. Et cette reconnaissance, cette inscription permettra d'aboutir, moi je l'espère en tous les cas, à une reconnaissance pleine et entière du caractère étatique de ces crimes.
Oui, alors, disons...
Ouais, peut-être à dire, juste sur les signatures.
Oui, allez-y, bien sûr.
Effectivement, on a mobilisé un panel large de signataires avec des historiens comme Benjamin Stora ou Gilles Manchéron, des personnes du milieu associatif, le président du MRALP, François Francinet, Aklim Elouli, que vous connaissez bien, ou Yassi Diaker, Farid Diaker du Forum France-Algérie, des élus avec des élus européens, Karim Adeli, David Cormand, des sénateurs comme Esther Benbassa, Daniel Breuillet, mais aussi des députés comme Rachel Keke, Sophie Taillé-Polian, députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot, vice-coprésidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc on a des militants, des historiens et des élus.
Dites-moi, Mehdi Belabbès, vous vous souvenez l'année dernière, le président de la République, le chef de l'État, Emmanuel Macron, justement, c'est le seul président jusqu'ici à avoir évidemment accordé à ce 17 octobre une minute de silence. Il s'est rendu au pont de Beson, au pont de Beson dans le 92, d'une ville tout proche qui est celle de Nanterre. Comme ça, ça va parler à tout le monde. Et puis il a observé une minute de silence. Il a déposé une gerbe, justement, en direction de, en mémoire des milliers de victimes de cette violente, sanglante, comme vous l'avez rappelé. Est-ce que ça suffit, Mehdi Belabbès ?
Moi, je pense que c'est bien. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une bonne chose.
Et c'est le seul à l'avoir fait.
C'est le seul à l'avoir fait. François Hollande avait aussi reconnu, en tous les cas, la gravité des massacres qui avaient été commis ce jour-là. Pour autant, on ne va pas au bout des choses. Pourquoi ? Parce que le président Macron, dans son discours, la responsabilité qu'il engage, c'est celle du préfet Maurice Papon. Et il n'implique pas la responsabilité de l'État français. Or, le préfet Papon, il était aux ordres d'un ministre de l'Intérieur, qui était lui-même aux ordres d'un gouvernement, qui était le gouvernement de la République française.
Oui.
Donc, il faut aller encore un peu plus loin que ça. Il faut que les responsabilités soient identifiées et que la République assume sa responsabilité, quelque part, dans les violences et dans les crimes qui ont été commis ce jour-là. Donc, le président Macron fait des gestes qui vont dans le bon sens, c'est indéniable. Mais il faut qu'on aille au bout de la vérité historique. Les milliers et les millions de Françaises et de Français d'origine algérienne méritent ce respect, méritent cette vérité historique.
Cette vérité historique, est-ce que, justement, avec cette lettre ouverte, est-ce que vous espérez, évidemment, un retour du chef de l'État, Emmanuel Macron ? Que vous attendez qu'il vous réponde ? Est-ce que vous attendez avec cette lettre ? Est-ce que vous lui avez envoyé ? Est-ce que vous attendez une proposition de sa part ?
Oui, alors, j'attends pas de réponse ou de proposition de la part du président Emmanuel Macron. J'attends des actes. Ce courrier, bien sûr, il lui a été envoyé, comme d'autres par le passé. On l'a déjà interpellé sur d'autres sujets. On n'a pas forcément de réponse, mais après, il y a des actes qui sont posés. L'ouverture de certaines archives et les déclarations qu'il a faites en sont la preuve. Moi, demain, j'attends des actes. Et si demain, même sans me répondre directement, parce que nous, on est que des acteurs associatifs et militants, ce n'est pas notre rôle de forcément d'être dans ces relations-là. Si demain il répond à nos interpellations et que demain le 17 octobre 61 est inscrit au calendrier officiel des commémorations, ce sera une belle victoire pour toutes les associations qui se battent depuis des années. Je pense au collectif bien évidemment du 17 octobre, à l'association Les Oranges de Mahmed Kaki à Nanterre, qui travaille depuis des années pour obtenir la reconnaissance. Donc moi, c'est les actes que j'attends. Voilà.
Mehdi Belabbès, dites-moi, vous qui travaillez pour la mémoire contre l'oubli, l'association que vous incarnez, la tribune, on peut la trouver où précisément
On l'a publiée sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, mais elle est publiée aussi dans les courriers de l'Atlas. On l'avait proposé à d'autres médias français qui ont refusé de publier cette interpellation. Mais voilà, vous la trouvez sur le site des courriers de l'Atlas.
Écoutez, les auditeurs qui vous écoutent, donc ils peuvent aller la signer.
Ils peuvent. Pour l'instant, on n'a pas ouvert de signature, mais on va le faire dès demain. L'idée, c'était de lancer un petit peu en amont du 17 octobre la démarche. Mais ensuite, l'idée, c'est d'avoir une grande pétition qu'on ouvrira, bien évidemment, à toutes les citoyens et toutes les citoyennes, tous les citoyens, pour pouvoir avoir un maximum de poids vis-à-vis de notre revendication.
Dites-moi, quels sont les événements qu'il ne faut pas manquer pour le 17 octobre? Vous les avez identifiés, Mehdi Belabbès?
Ah oui, alors il y a des événements partout en France. Le premier, c'est le rassemblement au pont Saint-Michel lundi 17 octobre à 18h30 à l'appel du collectif unitaire du 17 octobre 61. Mais ensuite, il y a de nombreuses villes qui ont mis en place depuis des années, grâce aux associations, des commémorations spécifiques. Ivry-sur-Seine commémorera ce même jour les massacres du 17 octobre. Ma collègue Halima Menoud, coprésidente de notre association à Montreuil, a un programme d'activités et d'initiatives avec de la musique traditionnelle algérienne, des poètes et une conférence avec une marcheuse de l'époque qui viendra témoigner de sa mémoire et de cette expérience douloureuse. Il y a la ville d'Alfortville, tout près des locaux de Beurre FM, qui a un programme de commémoration extrêmement important. Donc voilà, il y a tout un tas de structures, Grenoble, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme villes? Voilà, il y a Saint-Denis, bien évidemment, Bobigny, il y a beaucoup de villes comme ça qui auront des initiatives. Vitry-sur-Seine, avec l'association Ensemble pour l'Avenir de Sierra Bahala Nashouri, qui proposera aussi une conférence sur le 17 octobre. Donc voilà, il y a tout un tas d'activités et d'initiatives prévues.
Eh bien, merci Mehdi Belabbès d'être intervenu sur notre antenne pour parler de cette lettre ouverte donc destinée au chef de l'État Emmanuel Macron. On va vous retrouver lundi prochain, on reviendra notamment sur l'histoire du 17 octobre. On prendra le temps évidemment d'en parler avec vous, Mehdi Belabbès.
Merci beaucoup, cher Adil. Merci. À très bientôt, à vous, tous les auditeurs.
Merci à vous. Vous représentez l'association donc de la mémoire contre l'oubli. Je me suis pas trompé, c'est bien ça, oui, il me semble.
C'est ça. Pour la mémoire contre l'oubli.
Absolument. Merci à vous.
Merci Adil.
À très vite, 8h11 justement, 8h12 pardon, qu'est-ce que je raconte, 8h13 même, 13 pour être précis. Allez, je vais ouvrir l'antenne. On va parler de pénurie de carburant. Vous savez que la députée écologiste Sandrine Rousseau, elle dit, elle, qu'elle veut mobiliser toutes les Français contre le gouvernement. Carrément, elle appelle à la grève générale pour soutenir les salariés de raffinerie. D'autres disent, y'en a marre. En gros, on parle de ras-le-bol. Je parle des usagers, je parle des automobilistes. On parle d'incidents qui se multiplient dans les stations-service. De plus en plus. Venez en parler, justement après la pause. 01-53-48-3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Karim Zeribi. Je vous donne rendez-vous en direct sur Beurre FM tous les vendredis dans l'émission Les Engagés. Je vous donnerai la parole, nous débattrons ensemble des sujets d'actualité. Je recevrai des invités politiques, économiques. La parole vous sera donnée. Les Engagés, c'est votre émission sur Beurre FM tous les vendredis de 10h à midi.
Retrouvez Les Engagés, le meilleur de l'actualité, tous les vendredis de 10h à midi avec Karim Zeribi en direct sur Beurre FM. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h22, j'ouvre l'antenne, jingle, c'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000.
Chers
amis, Les Informés vous donnent la parole.
Je voudrais qu'on parle de deux choses, deux sujets, moi, qui me tiennent à cœur. La pénurie, évidemment, et tous ces incidents dans les stations-service. Comment vous les vivez? Franchement, là, ça part en... Pardonnez-moi la trivialité du terme, mais ça part en cacahuète quand même. Et le deuxième sujet, je voudrais qu'on parle, vous savez quoi, j'ai noté, la forte augmentation des prix mesurée par l'INSEE à 5,6% sur un an en septembre. Et ben vous savez quoi? Ça a entraîné des frais bancaires pas possibles, et c'est ce qui met, paraît-il, vous savez quoi, en découvert, justement, les Français. Je voudrais qu'on en parle. Est-ce que vous avez noté quand vous allez faire des courses, quand vous faites des achats de vêtements, enfin bref, notre vie quotidienne, vous avez remarqué que ça, c'est, les prix ont flambé quand même, hein. C'est pas rien, hein. On parle quand même de, par exemple, de certains repas, les pâtes, etc. C'est pas 50 centimes, on parle de 60, 70 centimes en plus. Alors 01 53 48 3000, je vous attends partout en France. Là, maintenant, le standard est ouvert. Et puis cette pénurie qui provoque, vous savez quoi? Des scènes de chaos partout en, évidemment, là où il y a des grèves. Pénurie, la CGT annonce qu'un premier salarié a été réquisitionné par un huissier sur le site. Justement, plusieurs centrales nucléaires rejoignent la grève pour une revalorisation des salaires. Je vous le dis, je vous la, voilà, donc sachez-le. Et puis, de l'autre, vous savez, il y a de plus en plus de députés qui appellent justement à une grève générale pour soutenir les salariés des raffineries. Qu'est-ce que vous en pensez? On risque de vivre un moment très douloureux, là, hein, si cela arrive. 01 53 48 3000. Je vous attends là, maintenant, au standard, vous savez. Il faut que le standard sonne dans tous les sens. Il faut que vous veniez justement nous faire part de votre point de vue, commentaire. Je vous attends là tout de suite. Vous savez que le standard, là, je sais pas ce qui se passe, mais on vous attend. 01 53 48 3000. Pénurie de carburant. Comment vous organisez les scènes de, évidemment, d'incidents, et puis les députés qui appellent de plus en plus, vous savez quoi, tout simplement à une mobilisation générale des Français. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes partisans de cela? Certains même veulent, évidemment, faire fléchir le gouvernement, veulent carrément mettre le chaos. Ils appellent à une grève générale pour soutenir les salariés des raffineries. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre avec ces députés qui appellent justement à cette grève manifestation générale? Venez nous en parler au 01 53 48 3000. Elias de Paris, bonjour.
Oui, bonjour. Salam alaikum.
Alaikum salam, bienvenue Elias. Vous faites quoi dans la vie?
Chauffeur poids lourd.
Et ben là, vous êtes concerné avec les histoires de pénurie. Hein.
Ah ouais.
Vous avez vu les scènes, les incidents là, qui se multiplient? Bagarres, crachats, insultes, ça part en cacahuète, hein?
C'est ça, c'est que, subhanallah, tu comprends plus rien, en fait. Dès qu'ils ont, dit que on était en pénurie,
ouais,
les gens, ils ont tous couru dans les stations. Mmh. En fait, c'est à force de faire ce genre de précipitation que ça va jamais s'arranger, j'ai l'impression.
Oh, mais là, ils appellent à la grève générale, certains députés. Vous êtes pour, vous êtes contre?
Moi, je suis pour les salariés là, de Total, là, je suis pour. Mais après, faut pas que ça dure, parce que sinon, ça met tout le monde dans la merde.
On est déjà un peu, pour récupérer votre terme, dans la merde, pardonnez-moi l'expression.
Ça commence à être un peu dur, surtout que pour nous, les chauffeurs poids lourds, on commence plus tôt, on finit plus tard.
Ouais.
Et parfois.
Vous êtes inquiet?
Ah ouais.
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 C'est chaud, non?
Ah, c'est très très chaud.
Elias, courage, hein.
Merci beaucoup et courage à toute l'équipe de RFM.
Merci.
Et salam alaikum.
Alaikum salam, bienvenue. Alaikum. Sarah des Yvelines, de quelle ville des Yvelines, de ce département, ma chère Sarah, vous nous appelez?
Bonjour, je vous appelle de Sartrouville.
Sartrouville, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Sarah?
Je suis cadre dans le domaine aussi, enfin, médical. C'est juste impossible de continuer dans ces conditions-là avec la vie qui devient hyper chère. Et les problèmes là pour l'approvisionnement au niveau du gasoil, de l'essence, etc. Là, on ne sait plus comment aller au travail. On se pose la question.
Oui.
Avec toutes les urgences qu'on a actuellement au niveau des hôpitaux.
Oui.
C'est très compliqué, quoi.
C'est là, très, très compliqué, ma chère Sarah.
Voilà, très compliqué.
C'est bien là, votre témoignage.
Il est à la moitié. Je ne sais pas comment faire après.
Ouais. Ça vous préoccupe, hein?
Vraiment. Vraiment, oui.
Vous avez vu que les députés, certains députés appellent notamment Sandrine Rousseau, qui veut mobiliser tous les Français contre le gouvernement et appelle à la grève générale pour soutenir les salariés des raffineries.
Oui, mais je ne sais pas si c'est la solution. Le problème, je pense qu'il est beaucoup
c'est la
plus
grande
profond
question.
Que ça. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment ça changerait quelque chose? Mais là, effectivement, il faut quand même trouver une solution. Laquelle? Est-ce que vraiment la grève changerait les choses? Peut-être. Je ne suis pas complètement convaincue, hein, mais pourquoi pas?
Oui.
Pourquoi
pas. Voilà. Ah là 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 là. Bon, bah, Sarah, courage à vous. Hein.
Merci beaucoup.
Je vois que vous êtes...
Courage. Merci. Courage à tous les Français.
Mais moi aussi, je suis inquiet. Hein. Je vais en bécane, donc je ne sais même pas comment faire. Hein. Demain, après-demain.
Voilà.
On pose des questions.
On ne voudra plus en ligne.
Je ne sais pas. Ça va être compliqué, cette histoire.
Ouais, ça va être compliqué.
Hassan de Gennevilliers, Hassan. Bonsoir, Hassan. Comment ça va, mon cher Hassan? Vous allez bien?
Bonsoir, BRFM. Bah, ça fait plaisir de vous avoir aussi, également.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Hassan?
Moi, je travaille à l'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Donc, j'accompagne les enfants, les petits-enfants.
Et vous avez besoin d'essence, de carburant?
Voilà, ben après, moi, c'est, je travaille avec la mairie de Paris, donc j'ai pas de soucis. Si, on a un petit peu de soucis, mais là, on se débrouille.
Ouais.
Par rapport au port.
Au carburant.
La ville de Paris, voilà, le carburant. Il n'y a pas de soucis pour ça. Par contre, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de vous dire, en fait, tout ça peut être réglé rapidement. La France a les moyens pour... pour réduire tout ça, en fait, la France a les moyens. La France est un pays très très riche, faut pas oublier ça. Ils vont passer la France pour un pays endetté, etc. Mais les profits que la France c'est énorme par rapport aux
pays.
Ils ont le pouvoir pour faire ça, pour que les gens sachent, en fait. Ils ont le pouvoir. Un exemple, là, pour les raffineries, etc., il faut savoir que Total et certaines raffineries, là, etc., ils font des profits énormes, hein, ça se compte en milliards.
Oui.
Donc, je comprends pas pourquoi, voilà, ils ne voudraient pas croquer un petit peu les petites abeilles qui bossent pour eux. Mais pour voir derrière tout ça, il faut comprendre, il faut que les Français sachent que tout le milieu ouvrier et toutes les petites abeilles de ce pays, nous sommes considérés comme des inutiles.
Oui.
Ça, il faut savoir, faut que les gens le sachent.
Oui, oui, c'est vrai.
Il faut que les gens le sachent, ça. Nous sommes inutiles, c'est-à-dire que la France, en fait, le gouvernement, etc., s'en foutent hein, que vous êtes payé 800 euros, 1000 euros, ils s'en foutent, en fait. Pour eux, ils sont pas dans ce...
Vous savez qu'Hassan, il y a plusieurs, des salariés qui ont été réquisitionnés, justement, par le gouvernement.
Bah, écoutez, ça, c'est réquisitionné, c'est dans l'état de guerre, ça, qu'on fait ça. Mmh. Après, nous sommes pas des esclaves, on a un droit de grève. On a un droit, c'est-à-dire un droit. Et le mot, ça
la loi le permet, hein. La loi le permet.
La loi le permet, mais après, j'invite à ces personnes-là de faire tout pour pas le faire. C'est-à-dire, soit de s'arrêter pour raison, aller voir leur médecin, on n'en sait rien, mais ne pas rentrer dans. Ne pas être les outils de ces gens, en fait.
Oui.
Donc, moi, je comprends très, très bien. Après, c'est vrai que c'est chiant, hein, y a des problèmes, etc. La population subit les conséquences, mais.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec comme Sandrine Rousseau, la députée qui propose une manifestation générale?
Pas du tout, ça c'est pour se faire connaître, etc. Vous savez, c'est comme les TikTok, etc. Il faut, se faire connaître négativement ou positivement, il faut qu'on fasse parler d'elle, en fait. C'est pour qu'elle ait son nom quelque part. Mais sinon, elle, vous inquiétez pas, elle a son essence et elle a sa paye bien fournie, en fait.
Oui.
Et, je veux dire, si elle, elle fait comme nous, donc vous donnez l'autre salaire et pas d'essence, on verra si elle changera de façon de parler, en fait. Donc, faut voir tout ça. Mais faut que les Français comprennent que la France a les moyens, etc. Sans cesse les ouvriers, sans cesse les étrangers, sans cesse ils mettent la zizanie entre le peuple, carrément le peuple. Le peuple parle d'Assistana, par exemple.
Oui.
L'Assistana, mais je suis désolé, la France a les moyens et c'est un tu. La France a
pillé
l'Afrique. La France a pillé l'Afrique, a profité de l'Afrique. L'Algérie, c'était le grenier de la France. Et sans vous parler des atrocités qu'ils ont fait là-bas. Faut que les gens sachent ça. Faut que les gens sachent.
Bon, mais merci Hassan d'être intervenu.
Malheureusement, il n'y a aucune solution. Ils arriveront à leur fin d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Merci Hassan.
Merci. Bonne soirée, merci de m'avoir reçu. Merci énormément.
Mais c'est normal, c'est votre lieu d'espace. Les informés, c'est ici 01 53 48 3000. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est une très bonne chose. Tiens, je vais aller accueillir Karim de Drancy. Bonjour Karim.
Oui, allô.
Bonjour Karim. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Karim?
Alors moi, je suis conducteur de transport en commun dans une célèbre boîte parisienne.
Oui. Et alors, comment vous vivez ? Dites-moi, je voudrais avoir votre point de vue sur le carburant.
Bah, sur le carburant, bon, bah, c'est vrai que les prix augmentent, mais honnêtement, ça nous embête. Ça nous embête énormément ce qui se passe, mais je suis de tout cœur avec les salariés de Total. Mmh. Car s'ils en arrivent à là, c'est qu'il y a un manque de dialogue. Étant moi-même en ce moment en grève avec cette célèbre boîte de transport, nous avons affaire à des patrons qui ne veulent pas nous entendre.
Oui.
Contrairement à ce que disent des grandes chaînes d'information à la télé, ils sont toujours là en train de nous dénigrer, de dire qu'on est des privilégiés, mais il n'en est rien du tout. Mmh. Si on en arrive à faire une grève, c'est que le patron qu'on a en face de nous ne veut pas nous entendre.
Oui.
Dans les médias, disons, on leur a proposé ci, on leur a proposé ça, alors qu'il n'y a rien du tout qui a été proposé. Il ne faut pas oublier que ces grandes boîtes-là engrangent des énormes bénéfices. Mais des énormes bénéfices.
Vous soutenez les grévistes, mon cher Karim, c'est ça. Hein.
Je les soutiens. Comment dire ? Ça nous fait souffrir d'aller à la pompe, c'est très compliqué pour nous. Mais je soutiens leur combat. Malheureusement, pour qu'il y ait des résultats, aujourd'hui, une grève, elle est obligatoirement...
Oui.
Bah, c'est obligé qu'il y ait des impacts sur la vie de tous les jours.
Oui.
Sinon, la grève, elle ne sert à rien du tout. Vous voulez faire quoi ? Une grève silencieuse qui n'impacte personne. Mmh. Il n'y aura pas de résultat.
Ben merci Karim de Drancy, merci d'être intervenu mon cher Karim. Philippe de Montreuil, Yacine du 78 et tous les autres 01 53 48 3000, justement restez avec nous puisqu'on nous continuons de parler de cette pénurie et de toutes ces scènes d'incidents que vivent les automobilistes dans les différentes stations, vous savez, de service. Incidents parce que vous savez quoi, c'est parfois des scènes de chaos, des crachats, des bagarres, mais aussi des insultes évidemment. Bon, bref, hier les auditeurs ont appelé massivement beaucoup d'entre vous, évidemment à chacun, à une responsabilité, mais surtout de civisme. Tout de suite, on continue de parler de pénurie des carburants et c'est avec le Quoi de Neuf avec beaucoup de retard.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Comme chaque mercredi, c'est avec le docteur Majid Chiosine, justement. Bonjour docteur.
Bonjour Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides chez les militaires. Et au SAMU, on vous écoute, vous nous parlez du carburant. On vous écoute, à vous la parole.
Bon, écoutez, mon cher Adil, je dois reconnaître que je me suis trompé. Oui. Et je retire tout ce que j'ai dit de méchant sur Kylian Mbappé. Il a grandi dans mon estime depuis qu'il a presque annoncé qu'il quittait le PSG.
Ouais.
Ce dont je n'aurais rien à faire, vous savez ce que je pense du foot et des footballeurs. Oui. Sauf que je m'incline devant l'acte de résistance de Mbappé. Oui. Rendez-vous compte, il va quitter le PSG. Les naïfs comme vous pensent, Adil, que c'est juste pour rajouter un zéro de plus à son chèque mensuel. Mmh. Quelle erreur, mon cher. En fait, c'est sa manière à lui de protester contre la Coupe du Monde au Qatar. Mmh. Ces stades réfrigérés construits sur les corps des Pakistanais morts sur les chantiers. Ah, quel idéaliste au fond, ce Kylian. Quel incompris, d'ailleurs. Car en fait, il avait vu juste avant nous tous. Tout le monde croyait qu'il plaisantait avec son char à voile. Eh bien non. Il avait anticipé la grève des raffineries et la pénurie d'essence. Et d'ailleurs, je l'ai croisé avec son char à voile sur la Nationale 3 à Bondy, faisant un doigt d'honneur victorieux aux pauvres automobilistes qui faisaient la queue devant la station BP. Un vrai citoyen, ce Mbappé. Il paraît d'ailleurs qu'après Madrid, il ira jouer au Dynamo de Kiev pour embêter Poutine. En tout cas, nous voilà dans le beau drap, comme disait Céline. Plus d'essence pour faire tourner nos bolides, sauf moi bien sûr, chers auditeurs. Non pas que j'achète de l'essence à Adil qui vend des jerrycans sur le parking de Beurre FM.
Excellent. Avec mes bidons et ma jerrycan. Ouais.
Avis aux amateurs, mais je vous préviens tout de même que c'est 10 euros le litre. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, c'est grâce à mon caducée et à ma carte du SAMU, je suis prioritaire dans certaines stations, et donc si une jeune femme célibataire veut faire le plein, je lui laisse mon 06.
Ah, c'est beau, je kiffe. Ah, vous êtes bon, le professeur, hein. Vous êtes bon, docteur Majid aussi.
Je vous dise, mon cher.
Bravo, franchement, bravo. Bravo pour ce
billet. Mais c'est vrai, mais c'est pas encore fini.
Ah, pardon.
Vous me coupez la chic.
Pardon, désolé.
Mais c'est vrai tout de même que cette transition écologique est perturbante. On veut passer à l'électrique, mais 10 centrales sont en panne. Il n'y a pas assez de stations de recharge sur les autoroutes. On se dit qu'on va continuer avec le thermique, encore quelques années. On envoie Elisabeth Borne à Alger avec 16 ministres, en espérant qu'elle revienne avec quelques tankers de pétrole. Et résultat, la pénurie s'étend. C'est à ne rien y comprendre. Je vais finir par demander à Mbappé de m'initier au char à voile. En tout cas, je voulais profiter des dernières secondes de mon billet pour souhaiter un joyeux anniversaire au FN, qui a fêté ses 50 ans. Je voulais le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté. Grâce à lui, je me suis engagé en politique, dans le milieu associatif. J'ai fait le coup de poing avec des skinheads. S'il n'avait pas existé, je serais un tout petit bourgeois de droite, modèle standard. Donc merci Jean-Marie et merci Marine de me donner encore envie d'avoir la force de me battre.
Ah bravo, ah, il faut comprendre le second degré hein, chez vous. Alors, merci docteur Majid Soussine, quel plaisir de vous retrouver les mercredis et votre billet d'humeur. Prenez soin de vous.
À bientôt.
19h40 justement, on marque une pause et je retrouve Philly de Montreuil. Continuez de nous appeler au 01 53 48 3000. Vos témoignages sont précieux. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h45 précisément, si vous venez de le rejoindre, 01 53 48 3000. Avant de présenter nos débatteurs et débattrices, influenceurs, justement, on va parler des quatre sujets qui ont retenu notre attention. Je voudrais juste, parce que Philly de Montreuil attend depuis tout à l'heure. Bonjour Philly.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Philly?
Je suis chauffeuse poids lourd creux auxiliaire.
Bon, ça se passe bien?
Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien.
Alors, dites-moi cette histoire de pénurie de carburant.
Franchement, moi, je suis d'accord à 50% avec les grévistes et à 50% pas d'accord.
Bon, dites-nous pourquoi.
Déjà, 50% parce que c'est normal. Je comprends pas pourquoi les gros patrons s'enrichissent pendant que les employés ont des salaires vraiment très bas par rapport aux gros patrons. Mmh. Maintenant, moi, je suis pas d'accord parce qu'ils foutent beaucoup de personnes dans la merde, excusez-moi du terme, des chefs de famille, des mères de famille. Elles rentrent fatiguées chez elles déjà après le travail. S'il faut faire une heure d'attente pour mettre simplement de l'essence, je trouve ça c'est égoïste pour ceux qui sont responsables de famille. Donc moi, je voulais aussi dire aux grévistes, pensez aussi à ceux qui sont en Afrique et tout, qui travaillent pour les pompes à essence totale et qui n'ont même pas 500 euros à la fin du mois.
C'est
même
vrai.
Pas 500 euros. Et faudrait penser à eux, c'est bien de gréver, je les comprends. Mais pensez à ceux qui sont en blinde comme au Mali, parce que je suis malienne. Ils n'ont même pas 300 euros de salaire pour toute une journée de travail.
C'est vrai ce que vous dites, hein. c'est vrai. Non mais c'est non, même voilà. Plus de l'endettement. On est dans le surendettement, ma chère Philly. C'est ça qui est terrible. Voilà.
Oui, et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est aux membres du gouvernement, il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Mmh. Il faut qu'ils arrêtent leur grève en Afrique, d'envoyer leurs militaires en Afrique ou je ne sais où. Il y a des problèmes plus importants à régler, c'est en France. Régler les problèmes des Français au lieu d'aller vous mêler des problèmes des étrangers, comme vous dites, parce qu'on sera jamais Français, on l'est que sur papier.
Là, c'est un véritable coup de gueule que vous nous faites.
Non, oui. Regardez les guerres qui ont été faites au Mali, inutiles. Ils n'ont jamais attrapé un djihadiste, jamais. On nous dit qu'ils ont attrapé Barbe Rouge, ils n'ont rien attrapé du tout. Mais par contre, pour aller piller nos ors, là, ce sont les premiers. L'uranium, ce sont les premiers. L'eau douce, ce sont les premiers. Genre, il y a une ministre qui est partie en Algérie pour un...
Bon, là, vous dérivez, là. Là, on parle du carburant, mais vous faites le parallèle avec ça.
Je vous dis la vérité. Je vous fais un topo de tout ce qui se passe. Il faut dire aux membres du gouvernement de faire des négociations avec les gens qui travaillent dans les raffineries.
Vous êtes beaucoup à nous appeler. Hein. Je sais pas, Tarek, ce qu'on va faire, mais...
On galère en France. On galère.
Qu'est-ce qu'on fait? Oui.
Il faut trouver une solution. Il y a les problèmes des Français à régler en priorité. La précarité, le problème de chômage. Le problème d'électricité qui va arriver en hiver. Vous voyez, il y a plein de choses à régler. Avant de penser aux autres pays, pensons à nos propres problèmes déjà en France. Parce que je suis française et fière de l'être.
C'était le coup de gueule de Philly de Montreuil.
Voilà.
Vous l'avez exprimé. Mais c'est votre lieu d'espace d'expression, ma chère Philly. Merci d'être intervenu.
Gentil. Merci.
Et restez fidèle aux informés.
Il n'y a pas de souci, je le resterai.
Absolument, avec grand plaisir. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec, je commence par les dames, Jessica Elonguer, qui est élue sur la ville de Creil. Bonjour, ma chère Jessica.
Bonjour.
Ça gueule, hein.
Ah oui.
Et les auditeurs, ils sont fâchés, là, ils sont en colère.
Bien, on va en débattre.
Hein. On a vu une série, et là, ça continue encore hein, de nous appeler, hein, 0153 48 3000, le standard explose. Pierre-Henri, vous êtes en colère aussi ? Bonjour. Bien.
Moi, en colère ?
Approchez le micro.
Oui, non, c'est le micro qui va être en colère si je ne m'approche pas. Non, je ne suis pas en colère.
Bon, vous allez nous le dire pourquoi. Voilà. Le patron de France Fraternité. Oui, Gamal Abina, bonjour.
Bonjour.
Le micro est ouvert ? Oui.
J'espère.
Tout va bien ?
Comme d'habitude.
Messieurs, madame, je voudrais que vous réagissiez à tous ces auditeurs qui témoignent à la fois, alors on le voit bien, on entend, à la fois ce soutien, cette adhésion aux grévistes, cégétistes, mais également aussi sont à la fois mitigés parce qu'eux, ils se disent, ne nous prenez pas en otage. Il y a ce 50-50, 50, on vous soutient, mais ce 50, comprenez-nous aussi. Ce cri d'alarme de cette dame, Philly, qui nous appelle de Montreuil, qui c'est son cri d'alarme. Fin de mois, en difficulté, fin de mois difficile. Alors parlons-en justement, cette pénurie, ce carburant. Pierre-Henri, cette colère, et puis votre point de vue.
D'abord, le pays est hystérisé depuis longtemps. D'une manière générale, c'est un peu tout le monde contre tout le monde. Là, nous sommes dans une situation tout à fait particulière avec une communication très déficiente de la part du gouvernement qui, la semaine dernière, nous expliquait que, en réalité, s'il y avait des files devant les stations essence, c'était tout simplement parce qu'il y avait un engouement des Français pour faire le plein et parce que l'essence n'était pas chère. Et moi, j'avoue que là, je n'ai pas très bien compris, parce que le gouvernement, c'est son métier aussi d'être informé. Il savait qu'il y avait des grèves dans les raffineries. Et moi, je suis pour dire la vérité. Il fallait dire aux Français, oui, il y a des grèves de salariés qui sont pas parmi les plus malheureux de ce pays, des salariés de chez Total, de chez Exxon, et qui se mettent en grève. Quand je dis c'est pas les plus malheureux, faut juste aller regarder leur niveau de salaire. Il est normal qu'ils puissent demander une augmentation de leur salaire, parce qu'après tout, effectivement, tout le monde sait que Total, les pétroliers, font beaucoup de profits. Maintenant, moi, je dois dire que j'en ai un peu assez de ces salariés qui sont en situation de force et qui peuvent bloquer un pays du jour au lendemain. Et donc, évidemment, il faut respecter le droit de grève, mais il y a aussi un pays qui doit fonctionner. Et on ne peut pas prendre un pays entier en otage. Donc, un peu de sagesse, parce que et la CGT ferait bien, en l'occurrence, parce que on va pas se masquer la face. La CGT joue les prochaines élections professionnelles. Et donc, et d'ailleurs, bon, CGT FO, la CFDT a pris une autre position. Mais moi, je vous avoue que là, aujourd'hui, je suis assez favorable à la réquisition.
Favorable à la réquisition. Jessica Elonguer, est-ce que vous dites, vous êtes partagé? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez?
Je pense que je suis totalement partagé aussi, comme la dame, elle a totalement raison de se dire, de dire qu'en effet, cette situation, elle nous met tous en galère. Moi, la première, pour aller au travail, j'ai besoin d'essence.
Et même pour venir ici?
Pour venir ici, je prends le train plutôt, parce que c'est plus accessible et il y a les transports. Mais du coup, en fonction des endroits où je me déplace, voilà, j'ai besoin plus ou moins de la voiture. Après, je tiens quand même à dire que cette manifestation, elle a quand même ouvert ma conscience, dans le sens où notre dépendance à l'essence, notre dépendance à cette énergie qui ne nous appartient pas et qui peut un jour disparaître, notre dépendance aux véhicules, etc. Et en effet, il nous faut encore revoir les d'autres alternatives. Comment on arrive à vivre sans changer notre mode de vie avec avec d'autres moyens de locomotion et en plus, si possible, avec une gratuité des transports, etc. et accessible à tous. Donc moi, j'entends les femmes, les messieurs qui disent bah oui, on a besoin de la voiture. Hein, on est tous un peu dépendants de la voiture, en tout cas des transports. Depuis qu'on a les transports, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'atteindre des destinations à un temps record.
Mais vous, vous parlez aux Parisiens, vous imaginez celles et ceux qui sont en banlieue lointaine, les villages, les zones rurales, ma chère Elanguer, ma chère Jessica. Mais oui, mais comment il faut, comment font-ils, Gamal Abina?
Là, on se rend compte d'une chose, c'est que on parle de 50-50 parce que c'est le début du mouvement, ça n'a pas encore impacté durablement. Quand il n'y aura plus d'approvisionnement, par exemple, dans les magasins, parce que les poids lourds ne pourront plus approvisionner, là, ça commencera, le 50-50 va basculer plutôt du côté du 10-90. En substance, on a un mouvement qui est aujourd'hui pas populaire pour une seule raison. C'est parce que leur revendication de base, c'est la question des salaires, l'augmentation des salaires, c'est juste pour dire qu'il y a une perte du pouvoir d'achat. Et donc, à partir de là, les gens se sentent concernés et on a l'impression qu'on doit être solidaire de ces travailleurs qui, effectivement, Pierre-Henri le souligne, ne sont pas mal payés non plus. Oui. Mais c'est vrai que on peut pas se dire, voilà, parce qu'un groupe gagne 10 milliards de façon complètement artificielle, puisque c'est une conjoncture internationale qui a provoqué ça, les salariés doivent être bien payés. Ça ne veut rien dire si on fait une corrélation entre ce qui est gagné par les groupes et les salariés. C'est-à-dire que les sociétés qui gagnent moins, ben, elles doivent pas bien payer. Ça, c'est pas normal. Ça fonctionne pas. La question, c'est que la CGT est actuellement sur un tapis de volant comme jamais elle l'a connu. C'était un mouvement qui était quasi mort. Et là, ils vont convoquer une manifestation, on va en parler tout à l'heure, où 700 syndicats vont les rallier. Donc la CGT profite d'une situation de crise pour pouvoir s'exprimer. Elle le fait très bien. Je ne sais pas si on m'entend.
Non, on vous entend très bien. Continuez.
Donc elle profite de cette situation de crise pour exister. Après, ses salariés, effectivement, bloquent le pays. Moi, j'en veux, effectivement, si vous le rappelez, Pierre-Henri l'a bien dit, au gouvernement qui, manifestement, je ne sais pas de qui s'est entouré Macron. Les plus compétents sont poursuivis actuellement. On voit l'affaire avec Édouard Philippe qui va être peut-être poursuivi. Et le reste est encore en place. Des incompétents notoires qui communiquent de façon calamiteuse depuis le Covid et autres. Et qui vous disent quoi? Ils vous disent, mais c'est quand même incroyable. C'est un peu comme le masque. Il n'y a pas besoin. Ben là, ils vous disent, non, mais il n'y a pas de queue dans les pompes. Alors moi, j'ai une voiture. Il se trouve que j'ai vu la queue. Hein, c'est monstrueux. Vous avez 500, 600 mètres de queue. C'était il y a une semaine. Hein. J'ai vu en province, je passe mes week-ends en province, j'ai vu les galères sur les pompes. Au départ, on n'a pas compris.
Une vraie galère dans les provinces.
Parce qu'en province, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive sur la pompe, on voit bien que les gens font la queue normalement. On arrive au niveau de l'essence, il n'y a pas d'essence. Il y avait encore du diesel, il y avait d'autres, mais pas d'essence. Donc on n'a pas compris, tiens, c'est bizarre qu'une pompe ne soit pas approvisionnée sans savoir ce qui se passait. Après, j'ai creusé et ce qui se passe, c'est qu'il y a un calendrier double qui est mis en place. Premier, c'est évidemment la CGT qui profite à plein régime de la crise, parce qu'ils veulent exister. Deuxième, c'est que le gouvernement, dans sa bêtise abyssale, et c'est là où je me posais question sur l'état de santé mentale, hein, vous propose une prime, l'essence est moins chère parce qu'il y avait une prime de 30 centimes par litre. Donc tout le monde s'est précipité pour cette prime parce qu'elle s'arrête au 1er novembre. Super calendrier, c'est intelligent. On lui laissait la prime jusqu'à la fin de l'année quand même. Donc ça crée un engouement immédiat pour les pompes qui étaient déjà peu approvisionnées. Donc c'est pas toutes les centres de distribution qui ont été impactés. C'est uniquement Total au départ.
Et que c'est uniquement Total, oui.
Et bien parce que Total a arrêté ses livraisons, on s'est retrouvé avec 30% de perte d'approvisionnement. Et 30% c'est pas 100%. Aujourd'hui on est à quasiment 100%. Et l'autre faute du gouvernement, et c'est vraiment incroyable ce gouvernement, moi il m'impressionne. Hein. Ils avaient annoncé qu'ils avaient touché aux réserves stratégiques. Je traduis. Les pays, pour faire face à des pénuries ou des problèmes de guerre ou autres approvisionnements, ont des réserves stratégiques de pétrole, de gaz et d'essence. Ils ont des réserves que les États-Unis, c'est connu, qui montent plus ou moins, qui oscillent en fonction des difficultés du moment. La France a promis ça pour dimanche dernier, ça n'a pas été fait. Alors que dimanche, elle aurait dû être réapprovisionnée. Donc il y a plusieurs éléments contradictoires qui sont mis en place qui prouvent que ce gouvernement navigue à vue depuis le début et continue dans une espèce de manifestement d'incurie, d'incapacité à gérer le pays, à nous entraîner vers des conflits qui n'étaient pas nécessaires. Donc aujourd'hui, on est même pas en hiver, on est en automne, je le rappelle. Il fait doux, on a la chance d'avoir un super été indien. Et ben, pour autant, on se retrouve avec des communications de col roulé ou de « il n'y a pas de pénurie d'essence », alors qu'en vérité, on va au-devant de graves tensions sociales.
Graves tensions social.
Oui, mais c'est possible. De toute façon, il y a des forces contradictoires dans le pays et un certain nombre de gens poussent de toute façon à l'affrontement. Donc, la question des tensions sociales, oui, elle est manifestement là. Et encore une fois, je pense que dans une situation de crise, d'anxiété comme celle que nous connaissons, parce que l'environnement géopolitique est quand même particulièrement perturbé. Je pense évidemment à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Il y a toute une série de signaux très préoccupants. Je pense évidemment à la situation que chacun vit avec le panier de la ménagère, comme on dit, mais ça peut être aussi du ménager. Hein. J'en fais pas une question de genre.
Voilà. Vous ne savez pas loin.
Oui, mais c'est bien pour ça que j'ai dit, parce que Donc, franchement, il y a de l'inquiétude.
Gamal Abina faisait référence évidemment à cette aide. Oui. La fin de l'aide, c'est 31 octobre. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que les prix de l'essence vont, les prix vont flamber, clairement. On va passer jusqu'à 2,50 € le litre.
Ce qui est inadmissible.
Autant inadmissible, c'est...
Et pourquoi c'est inadmissible? Parce que le baril de pétrole oscille entre 85 et 90 dollars, voire 98 dollars, c'est arrivé la semaine dernière, pour des raisons, effectivement, qui sont parfaitement artificielles. Je dis et répète maintenant devant vous, je le répète...
2,50 €, c'est beaucoup, non?
C'est extrêmement cher.
Mais c'est cher, et ça me paraît beaucoup, moi.
Et se moque
enfin, j'essaie, mais...
Non, mais il faut c'est, rappeler que le gilet jaune, c'est 1,60 €. Je dis et je répète, c'est important de l'entendre, ça. Que je considère que le gouvernement a une responsabilité qui doit être engagée sur le fait qu'il laisse, et c'est criminel sur un plan économique, les spéculateurs augmenter les prix artificiellement.
Exactement.
J'ai appris par exemple que l'huile avait augmenté, que le beurre augmente, que le blé
augmente. J'en parlais tout à l'heure.
Le blé, vous rendez compte, le blé, un des principaux producteurs de blé au monde, c'est la France, avec les États-Unis.
Les prix ont flambé.
Pourquoi ils flambent? Parce que les spéculateurs sont dessus. Et que normalement, quand on a un temps de crise comme celle-là, qui est quand même aggravé, on sort quand même du Covid, je le rappelle, il devrait y avoir, si le gouvernement était un peu sérieux, une mobilisation générale pour dire nous contrôlons au minimum les prix ou nous bloquons les prix des denrées de base. Ils ne le font pas. Ça s'appelle une véritable démission de sa responsabilité. Et c'est en ça que je dis que la population doit comprendre qu'il faut pousser les gouvernements à agir.
Jessica Ellanger.
Je suis totalement d'accord avec...
Mais là, ça ne va pas passer. Les gilets jaunes, c'est le retour des gilets jaunes avec 2,50 €. Pire.
On attend la manifestation.
Ils ne sont pas complètement idiots non plus, Jessica. Ils ne sont pas complètement idiots non plus. Et ils sortiront des mesures. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte reviendra d'actualité. Parce qu'ils savent très bien...
Je me demande s'il n'y a pas une erreur stratégique, comme le dit Gamal Abina, du quoi qu'il en coûte, là, justement.
Le problème du quoi qu'il en coûte, c'est que c'est donner de l'argent
s'il
directement
y a pas une stratégie.
À des gens. Parce que les gens ont du mal à comprendre le rapport pourcentage, capacité d'achat, et puis pis-aller. Le pis-aller, c'est quoi? C'est donner 100 euros. Ils ont fait ça à tout le monde. On donne 100 euros. 100 euros pour compenser l'inflation, alors qu'on sait que le panier moyen du ménager et de la ménagère, lui, on était à 100 euros de moyenne, maintenant on est passé à 100 euros, ça fait 20% d'augmentation. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que dit l'INSEE ne correspond pas à la réalité de ce qu'on voit dans les commerciaux. Parce qu'ils font un panier moyen qui ne correspond pas à des réalités vraiment tangibles. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive à une augmentation des prix de façon considérable, ça rappelle les années 80, Pierre-Henri doit s'en souvenir, les 20% d'inflation des années 80, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça veut dire 20% de pouvoir d'achat en moins, ça veut dire que.
C'était une époque bénéfique, puisqu'il suffisait de faire des prêts, et finalement, l'inflation remboursait le prêt.
Et de l'autre côté, on avait, c'est là où c'est dégoûtant, parce que, bon, les gens ne connaissent pas l'économie, ils ne comprennent pas, mais quand il y a une inflation galopante, normalement, logiquement, les banques qui ne jouent pas leur rôle de responsabilité devraient proposer des produits à 20%. Elles ne le font pas. On est encore avec des rémunérations à 0,5, 1% maximum quand on a 20% de perte sur ses comptes. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs de troubles qui risquent d'arriver. Et c'est vrai que, et je reviens sur mon propos de départ, quand on donne 100 euros alors qu'on a une perte de pouvoir d'achat de 20%, ça ne veut rien dire 100 euros. Le seul moyen pour ne pas perdre son pouvoir d'achat, c'est de contrôler les prix et les limiter.
Dans le même registre, justement, Jean-Luc Mélenchon promet depuis juillet maintenant, depuis quelques mois, vous savez, cette fameuse grande marche contre la vie chère. On y est, on est en plein dedans. On parle justement d'un litre à 2,50 €, là prochainement, je vous parle de ça, c'est dans quelques jours, ou même on est en train de le vivre. Qu'est-ce que je vous raconte? On est en train de le vivre en ce moment même.
Ah bah oui, alors les syndicats... Les stations sont fermées et les seuls qui restent, évidemment, se gavent.
Se gavent. Alors, pour l'instant, les syndicats, disons-le à nos auditeurs qui nous écoutent, ne veulent pas y aller à cette fameuse marche du 16 octobre. Alors, justement, on va en parler justement. Je vous donne la parole. À quoi peut-on s'attendre, justement? Ils ont raison. Pourquoi vous dites qu'ils ont raison?
Je pense.
Pourquoi vous dites ça?
Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui, évidemment, est toujours... qui cherche à tout conflictualiser et qui faisait référence à la Révolution française en disant du 16 octobre en 1792 vous êtes allé chercher la reine et le roi, vous les avez ramenés à Paris, faites mieux avec Emmanuel Macron.
Il a dit ça ?
Oui.
Il a dit ça.
C'est ça. Ouais, c'est,
trash, ça.
Et donc ça, si c'est pas un appel à la violence, je ne sais pas ce que c'est.
Il a fait un rétropédalage. Hein.
Oui, bien sûr, comme d'habitude. Mais enfin, excusez-moi, mais compte tenu de la situation sociale dans ce pays, de l'ambiance générale, faire ça, c'est courir le risque, évidemment, de légitimer un certain nombre de violences. Et je vous assure que, en fait, des gens qui vont aller ce dimanche manifester ce qui est un droit constitutionnel risque une fois de plus de se retrouver dans un véritable traquenard et dans une violence terrible.
On parle des gilets jaunes, on parle des black blocs, oui, on parle de
sûr,
tout ça
bien
dimanche
sûr,
prochain.
Bien sûr, bien
Est-ce
sûr.
Que ça risque d'être
Ah bah moi je pense que c'est une erreur fantastique. Enfin c'est pas possible. Du coup le droit à manifester dans ce pays devient vraiment extrêmement limité, sauf à vouloir se prendre des coups de matraque sur la tronche. Enfin, il y a vraiment un problème. Et Jean-Luc Mélenchon qui fait ça, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, bien sûr, parler, faites de l'outrance sur Twitter, c'est pas grave, peut-il se dire, c'est de la com, je rectifierai, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est un véritable appel à la violence irresponsable.
Appel à la violence irresponsable. Jessica Longuer.
Mitigé.
Elle avait. Non, mais c'est vrai. Restez dans votre propos.
Non, mais.
Défendez-le si vous le souhaitez.
Je pense qu'il y a des.
Justement, c'est le lieu.
Aujourd'hui, l'ambiance générale.
Si vous soutenez Mélenchon, vous soutenez.
Est tellement tendue que. Aujourd'hui, on est au-delà des mots. Et je pense qu'il faut aller à la manifestation pour montrer qu'on est au-delà des mots. Qu'à un moment, tout le monde est fatigué. Les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à se chauffer. Les gens dorment en jogging, col roulé, avec doudoune, etc.
C'est vrai.
Les gens payent des factures.
Là, vous anticipez un peu quand même.
Je suis désolée, il fait déjà froid.
Ah bon ?
Il fait déjà froid.
Ah bon ?
Pour certains, il fait déjà froid.
Ouais.
Donc, et surtout nous au nord. Ouais. Donc.
Au nord.
On est au nord, on est dans les Hauts-de-France. Donc, jusque-là, on reste au nord. Donc, enfin, bref. Tout ça pour dire que oui, bien évidemment, il faut aller manifester. Et je pense que les gens qui iront manifester n'iront pas parce que Mélenchon a appelé à aller manifester. Ils iront parce qu'il n'y a rien dans leur frigo. Mmh. Et ça fait depuis des années qu'on dit que les étudiants n'ont pas assez pour manger. Ça fait depuis des années qu'on dit qu'il y a des personnes qui sont en situation de précarité. Ces personnes-là n'ont pas eu un chèque, ou n'ont pas gagné au loto entre temps. Ils sont toujours restés dans cette situation-là. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde est impacté. Bah, que tout le monde soit concerné par la cause. Et je pense que si on veut faire avancer les choses... tout à l'heure, j'entendais, Monsieur Attal qui disait que la manifestation n'a jamais rempli un frigo. Eh bien, manifestation...
Non, Attal.
Attal.
Eh bien, la manifestation, ça sert à éveiller les consciences et on espère que le gouvernement pourra suivre, en tout cas, la démarche et prendre les mesures les plus efficaces.
Eh bien, je vous trouve pas tellement mitigé, moi. Hein.
Elle n'est pas mitigée du tout.
Manifestation pacifique.
Ah ouais,
bien évidemment.
Ah, bien sûr.
Gamal Abina.
Ouais, m'a fait marrer.
Ouais.
T'es bonne. Qu'est-ce que j'allais dire Moi, je note deux choses, c'est que c'est la CGT qui, enfin Mélenchon et puis la CGT qui vont être dans le bateau. Vous avez lu, a dit comme moi, le livre sur les Black Blocs.
Oui.
Et on a compris dans le livre, à un moment donné, on parle de ce rapport du SO, du service d'ordre de la CGT, qui est incapable, parce que c'est des papiers maintenant, de faire face à ces jeunes Black Blocs bien déterminés. Donc ce qui va se passer, c'est que les
Black Blocs... Bien déterminés et bien organisés.
C'est en cela qu'ils sont bien déterminés, parce qu'ils ont été inspirés par les Black Blocs allemands.
Allemands.
C'est là-bas que ça a démarré. Et ils sont beaucoup plus rentrés dedans. Donc, il va y avoir certainement,
c'est clair. Leur message, c'est le capital.
Le débat, c'est pas savoir s'il y aura des violences.
Non, mais c'est important. Moi, c'est le débat pour moi, parce que je sais ce que c'est qu'une manifestation. Quand il y a des violences, j'étais dedans. Donc,
mais ils ont prévu d'y
aller. Nous, on a fait une manifestation pour la Palestine. On s'est fait gazer par M. Valls. Il n'y a pas été avec l'eau de la cuillère. Il a été comme un sauvage. Donc, c'était à Barbès. On est au milieu, dans une nasse. C'était une horreur. Et là, il se trouve que quand il y a eu ces violences-là, et c'est triste à dire, j'ai envie de dire, quand il y a eu ces violences-là, immédiatement, Sarkozy a envoyé un émissaire au Moyen-Orient. Pas Sarkozy, c'était à l'époque, Gival Sarkozy. Hollande, c'est ça,
oui. Hollande, oui.
Pour dire, non, mais on oublie le personnage.
Il a droit à une clochette, lui. J'ai droit à une clochette.
Le mépris du personnage. Mais plus sérieusement,
revenons à la marche du 16 octobre.
Et à ce moment-là, il y a des violences et ça a eu un effet. Et ce qui se passe, c'est à craindre. Les violences vont entraîner forcément une discussion directe. Maintenant, j'ai envie de rappeler quand même une chose importante, parce que c'est vrai qu'on ne revient pas à la source du mal. Cette histoire de blocage par rapport à Total, il faut rappeler quand même que Total n'est pas opposé à l'augmentation du tout. C'est un coup de pression qu'on leur a fait. Ils ont dit, on va négocier au novembre. Ils ont dit, non, avant, vous négociez avant. C'est vraiment un rapport de force où Oui, pour le coup, la CGT exagère sa position.
Préventive.
Exactement. Et pourquoi elle fait ça? Non pas parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas augmentés. Ils vont être augmentés, c'est certain. C'est parce que la CGT joue la carte du pourrissement. Elle dit que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc, on va jouer la première offensive parce que toutes les manifestations antérieures sont des échecs. Et ça va fonctionner, ça va créer un effet d'entraînement. Donc, la CGT fait son travail de façon avec brio.
Et ça crée un...
Bien sûr. Ils le font. Mais le problème, c'est que la rupture, c'est quoi? C'est le moment où, quand on parle chien-lit, on parle à l'époque de De Gaulle, le moment où il y a une rupture entre les pauvres qui vont se heurter aux forces de l'ordre et les riches, entre guillemets, ou les classes moyennes qui vont peut-être plus aimer. Et si ça tourne dans cette situation,
on connaît la fin.
Voilà, absolument.
On connaît la fin.
Tout à fait.
On connaît la fin. Si c'est ce scénario, oui. L'affaire est pliée.
Comme pour les Gilets jaunes, c'est pareil.
Voilà. Dès lors qu'il y a violence, vous allez avoir sur les chaînes d'information.
Aux ordres demeurants,
bah, qui vont tourner en boucle là-dessus. Et évidemment, ça va cliver encore un petit peu plus. Et la demande d'ordre, qui est déjà très forte aujourd'hui dans la société française. Voilà, une demande d'ordre, une demande de sécurité, va encore grandir. Très sincèrement, le tapis rouge, il est en train de se dérouler pour l'extrême droite. C'est terrible. C'est vraiment terrible.
Mais je reviens sur ce que vous disiez, Gamal Abinet, tout à l'heure, justement. Évidemment, ce choc qui risque de se produire dimanche prochain entre à la fois la base, c'est-à-dire évidemment ceux qui vont aller manifester pour justement parler de cette marche contre la vie chère, et de l'autre, vous faisiez référence à la classe moyenne, à la classe aisée. À quoi peut-on s'attendre justement?
Il n'y aura pas de friction parce que tout le monde est en inquiétude actuellement. Donc il n'y aura pas cette friction.
Je pense même la classe moyenne est inquiète.
Et j'ai envie de dire, moi, que je regrette que ça ne vienne pas du gouvernement, cette marche. Pourquoi? En termes symboliques, je veux dire pourquoi.
Parce que le gouvernement, l'exécutif, c'est rare que...
Non, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que ce qui se passe, c'est que Mélenchon est sur un siège en or. Il a raison. L'augmentation des prix n'est pas acceptable. Il a raison sur le fond. Il le fait pour des raisons politiques, parce qu'il ne peut plus rien faire à l'Assemblée, il ne vaut rien sur un plan politique. Il est incapable de bloquer le gouvernement, donc il passe par la rue. On parle souvent de la voix de la rue qui peut l'emporter. Il rêve de révolution. Alors, je suis choqué, le tweet m'a choqué, parce que ça l'appelle à la violence intolérable. Pour le coup, et Mélenchon, j'ai pas de sympathie pour lui. J'ai de la sympathie pour son équipe qui est un peu plus de base populaire, lui moins, mais dans tous les cas de figure, il fait une chose pour laquelle il a raison. Les gens souffrent et il faut qu'ils soient entendus. Mais moi, ce que je crains, c'est pas le fait qu'ils soient entendus, c'est nécessaire. S'il y a 2 millions de personnes dans la rue et que ça se passe bien, c'est formidable. S'il y a 200 000 personnes et qu'il y a des violences, on a perdu. Je dis simplement, et moi je fais pas partie de la classe pauvre, je suis chef d'entreprise, en difficulté, c'est vrai, mais je suis pas en train de compter mes sous-sous. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec les minima sociaux. Et c'est cela qui m'inquiète, parce que ces minima sociaux, avec 10% de chute de pouvoir d'achat, résiste à 500 euros par mois, il est à 450 aujourd'hui. C'est vous dire un peu le recul. C'est en ça que je dis, le risque, c'est une rupture.
À quoi peut-on s'attendre dimanche?
Je pense qu'il va y avoir des violences, c'est une certitude, parce que les gens sont très énervés, et parce que la base sociale de Mélenchon, comme de la CGT, adhère au Black Bloc aujourd'hui. On n'est plus dans, vous l'avez vu dans le livre, ils adhèrent. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils étaient un peu rétifs, mais aujourd'hui, les Gilets jaunes ont pété l'Arc de Triomphe, on a commencé à discuter. Voilà ce qui s'est passé.
C'est pas les Gilets jaunes.
Si, les Gilets jaunes à l'époque ont
pété. Les Black Bloc.
Non, à l'époque, l'Arc du Triomphe, c'est pas les Black Blocs, c'est la population. Ils ont été cassés l'Arc du Triomphe. Non, il n'y avait pas de Black Bloc à ce moment-là.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas les Black Blocs. Oui, vous avez raison. Non, c'est vrai. Autant pour moi, c'est vrai. Vous avez raison.
Et donc, à ce moment-là, il y a eu une discussion du gouvernement qui a commencé à faire son grand cérémonial. Mais là, aujourd'hui, le risque, il est là. C'est que les tensions sont tellement fortes. Les gens souffrent tellement. Et la peur de souffrir. Parce qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il faisait froid. Il fait pas encore froid, effectivement. Mais, on a peur d'avoir froid. Parce que Borne, tous ces clowns, j'aurais dit, c'est vraiment presque clownesque, qui viennent avec leur pauvre col roulé alors qu'ils sont chauffés à 50 degrés, ils se moquent de nous. Il y a quand même un peu de sérieux à voir.
Donc, il peut y avoir un succès ce dimanche, quand on parle de cette fameuse marche contre la vie chère.
Non, je ne pense pas qu'il y aura de succès, parce que... Non, moi, je ne crois pas. Évidemment que la CGT va faire le boulot pour amener des troupes en grand nombre et va les acheminer. Ils savent faire, il y a une organisation, et puis c'est le rôle d'un syndicat. Mais qu'est-ce que ça veut dire un succès pour la manifestation? Nous sommes un pays de 67 millions d'habitants, s'il y a plus de 100 000 manifestants. Voilà. Et si en plus il y a des violences, non, ce sera pas un succès. Je pense pas. Regardez la situation qu'il y a. Oui, elle est tendue, mais enfin, franchement, il y a des grèves. Dans l'éducation nationale, il y a des tensions.
Il n'y a pas de cohésion, c'est sûr.
Il n'y a pas de cohésion. Voilà, c'est exactement ça. La la cohérence de ces luttes reste à démontrer. Il y en a une qui est effectivement le pouvoir, l'augmentation du pouvoir d'achat. Bon, très bien. Même dans la fonction publique, il y a eu une augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5. Bon, ça couvre pas tout, mais ça a été un déblocage.
Jessica et Longuer, et ensuite on marque une pause, la dernière de évidemment des informés.
Ah, ouais, ça se finit que... déjà.
Non, non, il y a
pause. La pause.
Ah, je suis
rassuré. Il y a encore des thèmes derrière.
Il attend à dire. Non, mais je pense que de toute façon, si on s'arrête qu'aux agrégats, je pense que les individus ne s'y reconnaissent pas. Et moi, je pense qu'il faut de toute façon parler en termes de microéconomie. Chaque ménage a sa situation particulière. Et aujourd'hui, là, on a vu des gens prendre la parole. C'est chaque ménage, de manière individuelle, qui dit, ben voilà. Eh ben oui, monsieur est peut-être chef d'entreprise, il ne compte pas les sous, mais il y en a d'autres qui comptent les sous. Et oui, il y a un tel. Et je pense qu'il va falloir, de toute façon, adapter. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui manque en France. Adapter et non plus globaliser les aides et donner à des gens peut-être qui en ont moins, qui en ont moins besoin que d'autres.
Allez, on marque la dernière pause justement et on se retrouve pour la dernière ligne droite. À tout de suite, ne bougez pas. Les informés, c'est juste après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farah.
Dernière ligne droite justement, Les Informés c'est avec Pierre-Henri, Les Informés c'est aussi avec Jessica Elonguer, mais également aussi avec Gamal Abina. Les Informés c'est aussi vous au 0153 48 3000. Allez, dernière ligne droite avec ce sujet. Vous savez, on va aborder la guerre en Ukraine. Il y a un clip qui a fait beaucoup sourire les Ukrainiens, Bardo Adjani, Marceau, Je t'aime moi non plus, et des canons au César. Ce clip délirant du ministère ukrainien de la Défense pour remercier la France. Écoutez, alors on a les images, mais on fait pas de la télé, on fait de la radio. Je voudrais juste vous faire écouter ce petit sonore, regardez ce petit clip qui a été notamment diffusé. Regardez. Alors on voit des images, vous savez quoi, de Macron, de Zelensky, on voit aussi des images de la guerre. Alors c'est un des clips des plus délirants que vient de publier le ministère de la Défense ukrainien sur Twitter. Gamal Abina, que doit-on comprendre? Une vidéo accompagnée des mots de Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, bref.
Il y a un seul mot que j'ai envie de donner là-dessus, c'est deux. Gentil, de haut, ridicule et pathétique.
Ridicule et pathétique.
Ridicule bon. Et pathétique, pourquoi? Ridicule parce que c'est pas la première fois que l'Ukraine fait ce coup-là. Le clip qu'ils avaient fait il y a quelques mois, c'était Paris sous les bombes russes. Et pathétique parce que franchement, cette mise en scène malsaine entre des canons César et des actrices, avec le c'est côté vrai. Sexy et le côté mort, franchement, le type qui a fait ça, il est d'une glauquitude extraordinaire. Et j'ai envie de dire qu'on ne remercie pas la France d'envoyer trois canons ridicules qui font pas la différence. Puisque les Russes ont démontré avec leurs 83 missiles qu'ils pouvaient frapper où ils veulent quand ils veulent, où ils veulent quand ils veulent. On ne fait pas un truc pareil. On dit plutôt, et moi je l'appelle de mes voeux, à ce qu'ils aillent enfin à la table des négociations pour empêcher qu'il y ait d'autres morts inutiles. La guerre est ingagnable. Les Russes ne reculeront jamais et les Ukrainiens n'ont aucun moyen de gagner. Oui, donc aujourd'hui, à part endetter le pays dans les proportions abyssales, parce que les canons sont vendus, c'est pas un cadeau. Eh bien, on se retrouve dans une situation où l'Ukraine va vivre ce que la France a vécu ou l'Allemagne, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Ils vont avoir 80 ans de dette. C'est intolérable et c'est pathétique de la part des dirigeants ukrainiens.
Pierre-Henri.
Oui, je n'aime pas beaucoup cette communication dans un moment de grandes préoccupations. La réponse russe avec les 83 missiles qui ont été balancés sur les infrastructures des villes en touchant un certain nombre de civils. Et la réponse qu'a imaginé le fasciste Poutine l'attaque du pont de Crimée, évidemment. Mais tout le monde, enfin toute personne sensée, savait que Poutine pouvait faire cela. J'entends le lendemain, ou enfin le jour même, dire « Bah, il faut déclarer la Russie état terroriste ». Oui, bah oui, d'accord, mais alors, si vous déclarez la Russie état terroriste, vous asseyez à la table avec qui? Parce qu'on ne négocie pas avec un état terroriste. Et donc, la question qui me préoccupe, j'ai vraiment pas de problème à dire que l'Ukraine et l'agresser. Elle subit une guerre d'occupation. J'ai pas de problème à dire que Poutine est un fasciste. Mais je pose quand même des questions sur qui commande l'OTAN. Où va-t-elle? Quel est l'objectif par rapport à cette guerre? Est-ce que ces questions-là, elles sont légitimes à poser sans se faire renvoyer immédiatement dans le camp du mal? Franchement, au bout d'un moment, moi, ce qui me terrifie dans cette guerre, c'est le fait que finalement, en France... on laisse le monopole à l'extrême droite une fois de plus d'appeler à la négociation. Mais c'est pas ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons le droit. On peut pas être dans une pensée binaire par rapport à ça. Alors je sais, on va me dire oui, mais l'Alsace-Lorraine quand les Allemands l'ont envahi, alors il fallait la laisser, etc. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de se mettre autour d'une table et de trouver les voies qui peuvent aboutir au minimum aujourd'hui à un cessez-le-feu.
Jessica Longuerre.
Il y a consensus de toute façon au niveau de cette table. Hein, je suis effarée de cette vidéo, de ce clip. Pour moi, on ne peut pas concilier quelque chose de, je pourrais appeler, poétiquement romantique et avec un scénario de guerre qui se passe actuellement. On a une Ukraine qui finit du coup par mendier des armes et en prétendant et en faisant un chantage affectif pour que la France puisse prouver son amour sous différentes formes. C'est bien ce qu'ils ont
écrit. Oui, enfin, c'est les États-Unis qui financent cette affaire de manière massive. Voilà, la France, dans cette histoire.
Dans tous les cas, c'est grave.
Bon, messieurs, madame, merci infiniment.
C'est sur cette gravité que nous nous quittons et que nous nous retrouverons avec joie et bonheur à Dillecamp.
Quand vous voulez.
Eh ben, voilà.
Il y aura de l'électricité. Quand vous voulez, dès la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Pierre-Henri,
s'il y a de l'essence.
S'il y a de l'essence. Pierre-Henri, merci infiniment. À très bientôt. Jessica Longuerre, merci infiniment. Au plaisir. Gamal Abina, également, à la semaine prochaine. Merci à vous tous. À la réalisation, c'était Salem, qui est en pleine formation. Il se débrouille plutôt bien. On l'encourage. Donc bravo, Salem. Bravo à lui. Et puis, assister, évidemment, avec notre chef d'orchestre Tarek. C'est son formateur d'ailleurs. Les nombreux auditeurs, bravo aussi à vous. Bilal Nenman, 2021. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, vous connaissez, non?
Oui.
Ah, la fameuse phrase.
Bah, on ne lâche rien.
On ne lâche rien, bien évidemment.
À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.